Je, comme j'ai fait la promesse la semaine dernière, je voudrais tout simplement démarrer ce début de mois avec une première partie par rapport à la vision de l'Église. Je pense qu'il est important pour nous que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire ici-bas pour le Seigneur. Le Seigneur nous invite et nous demande de le servir. Alors, vous le servez à divers niveaux. Pour certains, c'est peut-être le fait de venir louer le Seigneur, de le faire au travers de la musique, de le faire au travers d'un chant, de le faire tout simplement dans la participation d'une offrande, de le faire tout simplement parce que le Seigneur nous demande de le servir au sein de l'Église. Mais en même temps, je pense que nous devons comprendre ce que nous faisons ensemble, et dans ce but-là, de comprendre ce que nous faisons ensemble, eh bien, je voudrais voir quelques prédications en cette nouvelle entrée pour que nous puissions réfléchir ensemble à ce que nous faisons. Tout est enregistré. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, ça sera sur notre site internet, donc vous pouvez venir le télécharger après par la suite, et de venir discuter avec nous pour que nous puissions prendre acte de ce qui va être dit ce matin. L'Église est le corps du Christ. Et si je le regarde au travers de la parole de Dieu, le corps de Christ est bien structuré. Même si parfois, on trouve que c'est pas toujours bien clair dans certaines situations, dans certaines choses. Mais la Bible dit que Christ en est la tête. Et je voudrais vous lire un passage, en tout cas, dans Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et sur les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, à cette pensée-là du corps de l'Église, si je le comprends bien, c'est quand même quelque chose de merveilleux de savoir que le Christ est la tête. Imaginez que la tête vous dise ce matin, qu'elle vous ait dit, quand vous étiez en train de regarder à votre glace, bon, aujourd'hui je verrai à droite. Et que votre cœur vous dise non, 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 pas à droite aujourd'hui, à gauche. Ça va vous amuser peut-être le premier jour. Mais le deuxième jour, vous allez avoir un mal de tête carrément. Parce que si tous les matins, vous vous dites, aujourd'hui je vais aller à droite, et que vous écoutez votre cœur, et que vous dites, ben, mon cœur me dit d'aller à gauche, à un moment donné, vous n'allez pas bien comprendre votre journée. Alors depuis quelque temps, nous parlons de la vision d'Église commune, et j'espère que vous comprenez ce que c'est une vision d'Église commune, c'est-à-dire qu'ensemble nous allons prendre la décision, en fait, cette nouvelle entrée, de mettre en place une vision d'Église commune. Notre vision, elle a été écrite sur un bout de papier, nous en avons discuté dans l'Assemblée Générale, et voilà ce qui est dit dans ce papier. Notre Église est une famille dont la mission est la gloire de Dieu. Elle veut étendre l'amour de Jésus-Christ à toutes les nations. Voilà la vision que nous avons mise sur ce papier. Dans cette vision, il y a cinq groupes. Ces cinq groupes de valeurs qui représentent en réalité notre vision. Donc nous devons exalter Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous devons nous édifier. Nous devons nous encourager. Nous devons évangéliser ensemble. Et nous devons nous équiper ensemble. Au travers de cette vision, bien, nous allons regarder, si vous voulez bien, un petit peu en détail ces cinq points que je viens de citer. Alors je vous rassure, je ne prendrai pas la décision ce matin de survoler rapidement les cinq points. Ce n'était pas honnête de ma part, j'irai très vite dans certains points, et puis pour d'autres, je voudrais en tout cas regarder et analyser ensemble avec vous. Tout d'abord, on va regarder ensemble le premier point, exalter Dieu. Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce que nous louons le Seigneur comme la parole de Dieu nous le demande? Est-ce que nous comprenons ce que signifie louer Dieu? Parce que quelque part, moi je suis allé dans la parole de Dieu et j'ai voulu regarder un petit peu ce que le Seigneur dit à l'église primitive du départ. On aimerait tellement avoir parfois des détails dans la Bible. Oh Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas dit il faut louer Dieu avec un djembé? Ça aurait été merveilleux de savoir que toutes les églises de France et de Navarre et même de l'étranger aient un djembé, parce que le Seigneur nous demande d'avoir un djembé dans le culte. Ça aurait été formidable que le Seigneur nous dise il faut louer le Seigneur avec des guitares électriques, avec un piano, avec un synthétiseur, avec une batterie. C'est tellement important. Et pourtant, quand je regarde la parole de Dieu, ça donne pas beaucoup de détails. Voici ce qu'il les donne dans la première église. Les premiers chrétiens étaient ensemble. Verset 47 du livre des Actes des Apôtres. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Il faut aller dans d'autres passages dans la parole de Dieu pour déceler quelques détails, pour voir que le Seigneur a rajouté, eh bien, il faut des psaumes, il faut des hymnes, il faut des cantiques, il faut certaines choses que ça va nous accompagner à louer le Seigneur. La louange a une place importante dans l'Église. Et vous avez constaté ce matin comme moi que quand on va dans un culte évangélique, hein, c'est 50-50. 50 la louange et 50 la prédication. Certains voudraient changer ce processus. Certains disent, oh, il faudrait que j'arrête de prêcher, Nicolas, on va mettre l'accent uniquement sur la louange et sur l'adoration. Mais en réalité, la Bible nous donne certains passages qui impliquent que la foi chrétienne, on s'est basé sur l'amour du Seigneur, on a le désir et l'engagement d'être ensemble, on a le désir et l'engagement de faire certaines choses ensemble. Alors la louange, c'est mêlé de chants, de musique, de prière, de lecture de la parole, d'étude de la parole, de la prière parfois, ça implique une communion fraternelle commune. Mais est-ce que ce que nous faisons est bon ou mauvais? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Est-ce que ce que nous faisons est bon ou mauvais? Comment on organise la louange dans notre église? Comment on y réfléchit à cette louange? Parce que si on y réfléchit un petit peu, et si nous sommes un petit peu quelques observateurs, vous allez voir que la louange a changé en quelques décennies dans nos églises locales. J'en veux pour preuve. Je me suis converti à l'âge de 84 ans. Je me suis converti en 1984, excusez-moi. Là, c'est une erreur vraiment... j'ai pas envie, j'ai envie d'arriver à 84 ans, mais je me suis converti en 1984. En 1984, quand je suis arrivé dans l'église, eh bien, en quelques décennies, nous avons vu un réel changement. Dans nos églises, on a commencé avec des cantiques sur les ailes de la foi. J'ai chanté pendant des années sur les ailes de la foi. Bien assez rapidement, nous sommes tombés d'accord. Dans certaines églises, on dit on va mettre de côté sur les ailes de la foi et on va chanter dans à toi la gloire. Donc assez rapidement, on a mis de côté sur les ailes de la foi et on a commencé à chanter sur à toi la gloire. Assez rapidement, les à toi la gloire ont pris le dessus sur les cantiques que j'aime l'Éternel. Et j'aime l'Éternel a eu tellement une influence dans nos églises
qu'à un moment donné, on a dit, bon, ben, on a sur les têtes de la croix, on a sur la croix la gloire, on a toutes sortes de cantiques, et maintenant, vous en avez à peu près 1500 dans le rétroprojecteur où nous pouvons les mettre régulièrement. Donc, en quelques décennies, la louange, qui était simplement sur quelques cantiques, est passée sur un rétroprojecteur le dimanche matin. C'est le courant qui est venu dans les années 80, avec le renouveau charismatique, qui a envahi l'église catholique et l'église évangélique à un moment donné, où le culte traditionnel a complètement changé à un moment donné et a mis du dynamisme dans les églises évangéliques, et notamment au travers du chant. Alors si on est un petit peu observateur, on va s'apercevoir qu'aujourd'hui, on n'en parlait pas du tout quand je me suis converti en 1984, mais aujourd'hui on va parler de techniciens, on va parler de personnes qui doivent s'occuper de la sono, on va s'occuper de chants, de personnes qui font les choristes dans l'église, on va s'occuper en fait de toutes sortes de choses, si le micro est bien sonorisé, si le vidéoprojecteur est bien sonné, si nous avons bien l'ordinateur. Enfin, toutes ces choses, en 1984, on n'en parlait pas. En fin de compte, quand on regarde un petit peu en quelques décennies, il y a eu une riche nouveauté et beaucoup d'enseignements par rapport à la louange et à l'adoration. Mais l'évolution d'une pratique chrétienne, et là je voudrais vous le dire en toute honnêteté, une évolution d'une pratique chrétienne ne peut pas être lancée au hasard et aux effets d'une mode. Parce que c'est la mode, alors automatiquement on doit le mettre au sein de l'Église. Il est nécessaire d'observer ce qui se passe, bien sûr, chez les autres. Il est nécessaire de comprendre ce qui se passe aussi chez les autres, d'analyser et de regarder ce que la Bible dit par rapport à ce qui est fait dans la parole de Dieu avant de pouvoir prendre une décision et de dire, eh bien, ce que j'ai vu ailleurs, je vais le pratiquer au sein de l'église de Marolles-sur-Seine. Aux États-Unis, pour y être allé plusieurs fois, vous avez à l'heure actuelle certaines églises dites évangéliques, donc de notre tendance, eh bien certaines prennent l'accent de dire, eh bien écoutez, aujourd'hui il faut un culte pour les jeunes et un culte pour les personnes âgées. Je l'ai vécu personnellement. Je ne voudrais pas que ça arrive ici. Je vous le dis franchement. Certaines personnes pensent aux États-Unis, eh bien, certaines personnes dans l'église d'aujourd'hui pensent que un culte, ça doit être attrayant, dynamique. Alors, si c'est pas assez dynamique, eh bien, certaines diront, oh, non, là, c'est trop, ça va trop vite pour moi. C'est trop dynamique. Alors, comme c'est trop dynamique, eh bien, on va demander au pasteur de faire un deuxième culte. Alors, moi, j'ai des cheveux blancs. Certains n'ont pas beaucoup de cheveux sur la tête. Alors, ils vont dire, mais non, moi, cette participation-là, je la veux pas. Je veux louer Dieu différemment. Je veux louer Dieu à ma manière, à ma façon, comme je l'ai reçu quand j'ai accepté Jésus-Christ. Mais, en fin de compte, si on réfléchit un petit peu, c'est quoi louer Dieu? Vous avez peut-être personnellement une définition de la louange. Peut-être vous êtes amusé dans la semaine ou dans le passé d'aller sur Wikipédia et de regarder ce que ça signifie l'adoration ou la louange ou l'exaltation. Peut-être vous vous êtes amusé d'aller voir ce qu'un commentaire biblique, une personne a dit sur la louange et l'adoration. Eh bien, je ne voudrais pas aller sur Wikipédia, je voudrais simplement aller dans le dictionnaire biblique et vous donner la définition du mot « adorer ». Adorer, c'est rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû en vertu de ce qu'il est. Dans la louange, on rappelle plutôt les faits et les bienfaits, tandis que dans l'adoration, on est centré sur la personne même de Dieu, sur ses attributs et ses qualités. Vous savez, ça nous pousse quand même à réfléchir. Je me dis, est-ce que je loue bien comme il faut Dieu dans mon moment de louange, dans mon moment d'adoration? Est-ce que je prends le temps de louer Dieu? Alors je vous ai déjà invité d'aller voir les psaumes et de voir comment David faisait. Mais David prenait le temps vraiment de louer le Seigneur. Et au travers de la parole de Dieu, nous apercevons que les disciples avaient un moment de joie, de grande joie, à louer et adorer le Seigneur. Et ce moment-là était participé aussi dans l'église locale. Nous avons ces lettres que Paul a envoyées aux Éphésiens et aux autres personnes pour vous montrer que ce moment était un moment individuel. On doit louer le Seigneur individuellement, mais on doit louer aussi le Seigneur collectivement, ensemble, dans la communion. Laissez-moi vous donner un deuxième mot, c'est le mot exalté. Littéralement, élevé très haut, ses discours et ses enseignements. C'est-à-dire que quand on exalte Dieu, on doit lever très haut ses discours et ses enseignements. David disait que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu de qui? De son salut. Il était reconnaissant d'être sauvé. La reconnaissance de David le poussait à quoi? À exalter son Dieu. Ça va nous laisser à réfléchir cette affaire de louer le Seigneur. Un deuxième passage, le psaume 69, verset 31. Je célébrerai le nom de mon Dieu par quoi? Par des cantiques. Je t'exalterai par des louanges. Quand vous chantez des cantiques à la maison ou dans la voiture, vous êtes en train de louer le Seigneur. Vous êtes en train de l'adorer. Quand vous venez dans la communion fraternelle le dimanche matin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'exalter le Seigneur et c'est le but principal du rassemblement des chrétiens. Laissez-moi vous donner un petit survol et assez rapidement dans la Bible. Tout d'abord, l'Ancien Testament. Quand on regarde l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on s'aperçoit que dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup d'adorateurs. Énormément d'adorateurs. La Bible nous dit que par la foi, Abel fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. C'était un adorateur, Abel, hein, dans la parole de Dieu. Vous avez l'exemple de Noé qui a délivré après le déluge, a bâti un autel et a offert des holocaustes. Noé est un adorateur de Dieu. Vous avez Abraham qui sortit du milieu du paganisme à un moment donné pour devenir un adorateur du vrai Dieu, dit la Bible. Et il s'est révélé au travers d'Abraham, Dieu. Genèse chapitre 12. Jacob, malgré ses manquements, terminera sa vie. Et il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 21, qu'il s'est appuyé sur l'extrémité de son bâton dans sa vieillesse en louant le Seigneur. La parole de Dieu nous montre que le peuple d'Israël était un peuple d'adorateurs. Oh, certains avaient le courage, mais ils étaient un peuple d'adorateurs. Et nous le voyons au travers de l'histoire, nous le voyons au travers de la parole de Dieu, quand le Seigneur les reconnaît individuellement, où la nation entière, à un moment donné, ils ont chanté des cantiques à Dieu. Exode chapitre 15, quand ils sont sortis d'Égypte, j'aurais voulu participer à cette louange, à cette adoration toute particulière, quand ils ont vu la mer rouge s'ouvrir, ils ont chanté un cantique à la louange de notre Dieu. Ils crurent en ses paroles et ils ont chanté des cantiques à Dieu. Au travers de l'exemple du tabernacle, quand Dieu a dit maintenant dans le désert, vous allez faire un tabernacle. Si vous lisez le livre des Lévitiques, eh bien, ça enseigne clairement que la sainteté des sacrificateurs et des sacrifices qu'ils devaient être faits était un élément essentiel à l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu devait s'approcher de lui en étant, un vrai sacrifice, c'est-à-dire fallait que ça coûte de l'argent, fallait que ça nous coûte de la sueur, pardon, pas de l'argent, fallait que ça nous coûte de la sueur pour donner un sacrifice à notre Seigneur. Bien plus tard, quand ils sont arrivés dans la terre promise, Israël est aussi, Dieu avait résisté et leur dit, en leur disant, vous devez être des adorateurs là où c'est que le Seigneur vous a placé. Je viens de faire un survol rapide de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous faire un survol rapide du Nouveau Testament. On voudrait tellement des détails, mais il n'y en a pas. Alors, on essaye de comprendre un peu ce qui est dit dans la parole de Dieu. Le dictionnaire, le substantif adoration, ne se trouve pas dans les versions françaises de la Bible. Par contre, vous avez le mot « se prosterner ». Alors, j'ai jamais vu personne ici, un dimanche matin, se prosterner comme s'il faisait la louange. Mais c'est le mot qui est dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament. Se prosterner, se baisser. Voilà ce que le Seigneur nous demande à faire. Il est écrit 50 fois dans le Nouveau Testament. Et dans la version, je dirais, Darby, c'est rendre hommage. Cette version-là nous dit que c'est rendre hommage à Dieu. Nous voyons que aussi rendre un culte à Dieu, c'est rendre l'hommage à Dieu, louer le Seigneur, l'adorer. Et nous avons toutes sortes d'occasions de le faire, le dimanche matin ou pas. En résumé, un chrétien a trois sacrifices à faire. Quand je le regarde à la lumière de la parole de Dieu, nous devons offrir un sacrifice pour nos péchés, un sacrifice parfait, unique. Alors bien sûr qu'on n'a pas besoin de faire des sacrifices comme dans l'Ancien Testament. J'ai pas encore vu ici quelqu'un porter un agneau. J'ai déjà vu des gens porter pour les repas paternels des plats, déjà tué, mais jamais un agneau pour être en sacrifice. Et c'est pas ce que le Seigneur, en tout cas, nous demande. Mais quelque part, si je résume bien, c'est ce que nous devons faire tous ensemble. Louer et adorer le Seigneur le dimanche matin. Je voudrais démarrer, en tout cas, par rapport à cette prédication ce matin, c'est à vous dire trois choses. Et je les mets, et je les mis, pardon, avec un ABC. A, B et C. Au moins, vous allez vous en rappeler. C'est facile, hein. Vos enfants vont reprendre l'école, ils vont reprendre peut-être les bases qu'ils ont oubliées pendant deux mois, à moins que vous les avez éduqués durant l'été à conserver les bases. Mais en tant que chrétien, nous devons conserver ces bases. Et ces bases doivent vous accompagner durant toute votre vie. Si vous avez à un moment donné accepté Jésus-Christ dans votre cœur, si l'action de la grâce de Dieu est partie dans votre vie, ces trois choses doivent vous accompagner durant votre vie. La première, A, adoration. Vous devez adorer le Seigneur, individuellement et collectivement. Vous devez apprendre à adorer le Seigneur, à rendre hommage de nos lèvres confessant le nom de Jésus-Christ. Un chrétien doit louer Dieu. Un chrétien doit rendre hommage à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il ne le fait pas, ou s'il met toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire, eh bien, je pense que c'est quelque chose que, pour moi, en tout cas, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de grandiose. Parce que louer Dieu nous fait remettre à la première place le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas votre personne que vous allez remettre à la première place quand vous louez le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ que vous allez mettre à la première place. Nous devons apprendre à adorer, à louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et le but de cela, c'est que le monde qui vient dans l'Église ils vont trouver grâce, on va trouver grâce auprès du peuple, et le Seigneur va livrer chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc si nous louons bien le Seigneur, si le Seigneur est à la première place à notre adoration, si on a laissé de côté cet esprit parfois égoïste ou imbu de sa personne, si on l'a mis de côté, qu'on est rentré dans l'Église et qu'on s'est dit, ben là, il faut que je mette le Seigneur à la première place. Je voudrais vous confesser quelque chose. J'avais envie de continuer ce matin le moment que nous avons chanté ensemble. C'est un moment riche, n'est-ce pas? C'est un moment important dans le moment du culte. Vous savez, quand on passe par des moments difficiles, de savoir que je vais dans un endroit où on fait des choses communes, c'est-à-dire que ensemble on va adorer le Seigneur, ensemble on va louer le Seigneur, ensemble on va mettre le Seigneur à la première place. Ça vous réjouit, n'est-ce pas, de venir au culte le dimanche matin? Je pense que s'il y aurait dans cette église beaucoup d'égoïstes, des personnes centrées sur leur propre personne, s'il y avait peut-être dans cette église des personnes qui n'étaient pas l'amour à la première place, je pense qu'à un moment donné, on dirait, ouais, il vaut mieux que j'aille voir à l'heure parce que je ne me sens pas pris bien au sein de l'église de Marolles-sur-Seine. C'est déjà arrivé dans le passé. Ça arrive parfois dans le présent. Ça arrivera encore dans l'avenir. Vous savez, il y a pas mal de personnes qui ne se sentent pas bien à l'aise dans l'église de Marolles-sur-Seine. Pour diverses raisons. Les raisons, elles sont communes individuellement à chacun d'entre eux, entre ces personnes-là. Mais à un moment donné, je pense que nous devons apprendre ensemble à adorer le Seigneur, à mettre le Seigneur à la première place. Deuxième, B, bienfaisante, l'offrande volontaire et joyeuse d'une partie de nos biens matériels. Le Seigneur dit que c'est un parfum de bonne odeur. C'est un sacrifice qui est accepté de Dieu et qui lui est agréable. C'est pas moi qui le dis, c'est quelques versets dans la parole de Dieu qui le disent. Philippiens chapitre 4, verset 18. Hébreux chapitre 13, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. C'est-à-dire un chrétien. Bon, j'enlève cette plaisanterie de ma tête là. J'allais dire un chrétien doit venir les poches pleines à l'église, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ce que vous faites pour le Seigneur que vous le faites. C'est pas pour une église, un bâtiment, une personne, un groupe. Donc c'est pour le Seigneur ce que vous faites. Si vous donnez une offrande volontaire, si vous donnez quelque chose au Seigneur, c'est pour le Seigneur que vous le faites. Et cela est une bonne odeur. Dieu apprécie, Dieu voit, Dieu a loué une veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Et je me dis, Dieu a vu ce qu'elle a fait. Et je me dis, vous savez, quand on donne au Seigneur, parce qu'il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Quand on donne à Dieu, ben c'est de mettre le Seigneur à la première place. C'est lui que nous voulons mettre à la première place. Je vous ai déjà dit, dans notre vie, on met le Seigneur à la première place. Ma femme vient de signer un CDI en l'espace de quelques jours. Elle est allée à partir du 1er juillet donner une action pour travailler un CD, je ne me rappelle même plus, ça fait tellement longtemps que j'avais travaillé, un CD. Elle est allée un CD, le lendemain elle a été appelée. On lui a dit d'accord, on vous offre un CD. 10 jours après, le directeur est venu la voir en lui disant non, nous on veut vous garder, on va vous donner un CD. Elle vient de signer un CD. C'est pas merveilleux ça. Parce que tout simplement nous voulons mettre le Seigneur à la première place de notre vie. C'est important, c'est vital. Bon, c'est vrai, il y a eu un chien qui l'a mordu à la langue de travail. Mais c'est pas grave ça. Ça fait partie, je dirais, des choses qui arrivent parfois dans la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est de mettre le Seigneur à la première place. Nous voulons l'adorer. Nous voulons que notre vie soit une vie de bonne odeur à l'Éternel. C'est pas à l'Église, c'est pas à des hommes. C'est au Seigneur que vous devez être une odeur, une bonne odeur. Un jour, le Seigneur va vous dire, quand vous allez vous présenter devant lui, parce qu'un jour vous allez vous présenter devant lui, que vous le vouliez ou pas, un jour le Seigneur va vous dire, est-ce que tu as été une bonne odeur? Là où c'est que je t'ai placé, est-ce que tu as été une bonne odeur? Et la question qu'on peut se poser, c'est, il faut dire la vérité, il y a des fois j'ai été, il y a des fois je n'ai pas été. Alors les excuses, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à un pasteur, ce n'est pas à une assemblée que vous devez les donner, les excuses, c'est au Seigneur. Parce qu'un jour le Seigneur va vous demander, à vous personnellement, individuellement, et il n'y aura pas ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, et ni ta famille autour de toi. Le Seigneur va te dire simplement, est-ce que tu as été là où je t'ai placé une bonne odeur à ma gloire? Troisième, c'est corps, notre corps. L'offrande de notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, est de notre part un culte raisonnable. Vous voulez rendre un culte raisonnable, offrez vos corps à Dieu. Offrez vos corps à Dieu. Vous allez voir que dans votre cervelle, ça ira beaucoup plus vite hein, et mieux pour le Seigneur. Offrez vos corps à Dieu. Toute notre personne doit être mise au service de Dieu et accomplir sa volonté. Si vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu, à un moment donné dans votre vie, vous allez déraper, parce que vous n'allez pas servir le Seigneur. Votre corps ne doit pas être mis à son service. Donc automatiquement, si votre corps n'est pas mis à son service, à un moment donné, cela ne va pas être un culte raisonnable. Et je pense que nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, de comprendre cet ABC. L'ABC, c'est l'adoration, rendre hommage à notre Dieu. C'est la bienfaisance, c'est-à-dire être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et en même temps, offrir nos cultes parce que c'est raisonnable à l'image de Dieu. Ma conclusion ce matin, je suis allé la chercher chez un saint penseur. Vous savez, dans ma bibliothèque, j'ai toutes sortes de commentaires. Alors, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant, vous pensez bien que je vais aller le chercher. Et voici ce que cet homme dit dans un de ses commentaires, très connu dans le milieu évangélique, c'est Samuel Azakaporizian. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, qui me pardonne de cette prononciation. Mais voici ce qu'il dit dans un de ses commentaires. Au commencement, Dieu créa l'homme avec ce besoin inné d'adorer. S'il n'adore pas seul le vrai Dieu, il s'adore lui-même ou quelqu'un d'autre, car l'homme doit adorer quelque chose. Je répète. Au commencement, Dieu créa l'homme avec ses besoins innés d'adorer. S'il n'adore pas le seul des dieux, il s'adorera lui-même ou quelqu'un d'autre, car l'homme doit adorer quelque chose. C'est l'exemple que nous voyons dans l'Ancien Testament, quand Moïse, à un moment donné, est parti tout seul dans le Sinaï, et qu'il a laissé le peuple tout seul. Qu'est-ce que le peuple tout seul a fait? Un veau d'or, la Bible nous dit, un veau d'or. Voyez-vous, quand Dieu nous laisse seul, parce que ça arrive parfois que Dieu nous laisse seul, au lieu de faire la volonté de Dieu, ce peuple a fait un veau d'or. J'ai toujours aimé l'excuse d'Abraham quand Moïse est venu le voir, on dit, qu'est-ce que ça fait? c'est le peuple qui m'a demandé. Et je me dis, ouais, est-ce qu'on doit écouter parfois le peuple? Je vous le dis franchement, si quelqu'un doit être écouté ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa parole. Et si sa parole me dit quelque chose au contraire de ce que vous me dites, je mettrai en avant la parole de Dieu. Et je pense que c'est le plus important pour moi d'adorer seulement le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas adorer aucun homme ici-bas sur cette terre. Je n'ai pas du tout envie d'adorer les statues. Je n'ai pas du tout envie d'adorer qui que ce soit. Je veux adorer uniquement que le Seigneur Jésus-Christ. Jean Calvin, que vous connaissez, a dit ceci. Dieu ne veut point être servi, ni adoré à notre guise. Il veut que nous cheminions selon sa parole, sans rien lui ajouter, ni diminuer. Il est inspiré, cet homme. Quand je regarde ce qu'il a fait pour l'église locale, cet homme était vraiment inspiré. Que la parole de Dieu nous parle. Non pas des commentaires humains, non pas des soi-disant expressions que nous avons aujourd'hui, qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit mis à la première place. Soyons des vrais adorateurs. Et dans les prédications qui vont suivre, je vais vous montrer que on peut devenir de vrais adorateurs de Jésus-Christ. Que nous puissions être aussi de bonne odeur à Dieu. Que nous faisons pour Dieu. C'est pas pour les hommes que nous faisons. Si nous voulons servir le Seigneur, c'est pour le Seigneur que nous le faisons, c'est pas pour les hommes. Et en même temps, offrons nos corps, comme la Bible nous dit, en sacrifice pour être vivant. Amen. Amen.